L'Éden de Satan numéro 130. Arroser les pensées semences dans votre pensée deuxième partie. Le 1er octobre 2023. Brian Kozurek. Pasteur. Inclinant la tête en prière. Père miséricordieux. Nous te remercions, Seigneur, pour tes paroles. Et nous te remercions pour ce matin. C'était brusque mais doux. Et Seigneur, aide-nous aussi à entrer dans le même esprit que tu as dit, dans lequel tu as vu les gens là-bas. C'était juste un amour parfait, c'était vraiment doux. Alors, Seigneur, nous prions simplement pour nos propres esprits. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et ce soir, nous allons à nouveau parler de l'Éden de Satan. C'est le numéro 130. Et nous allons continuer avec arroser l'esprit de votre pensée, intelligence. Donc, je vais juste lire quelques citations pour commencer. Frère Branham a dit dans, que pensez-vous de Christ? 13 décembre 53 matin 8. Et si la bonne attitude mentale? Adoptez simplement une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu, et regardez-la se matérialiser. Voyez, peu importe à quoi cela ressemble, si cela semble impossible, si Dieu l'a dit, il le rendra possible. Alors, rappelez-vous une chose, ce n'est pas vous qui rendez cela possible, mais c'est Dieu qui rend cela possible. La parole faite chair 3 octobre 5475. Et chaque parole de la Bible est à la pensée de Dieu présentée sous forme de semence, laquelle, si elle est reçue dans l'être humain et prononcée dans la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à se réaliser. Voyez-vous ce que je veux dire? Combien puissante pourrait être l'Église? La Bible a dit, que cette pensée qui était en Christ soit en vous. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Maintenant, vos pensées, si elles deviennent une expression, c'est comme lorsque Dieu a dit, qu'il y a un monde. Avant que ça devienne une parole, il a fallu que, ce soit une pensée. Aussi, Dieu, dans la création, créa d'abord le monde par sa pensée, puis le prononça. Et la pensée, une fois exprimé, c'est matérialisé. Voyez-vous ce que je veux dire? 180 cela toutefois peut être exprimé par une conception mentale. Mais si cela devient une vraie révélation de Dieu, que vous voyez cela avant que ça n'arrive, et que vous l'exprimiez sous forme de parole, cette parole prend effet et se concrétise. Une pensée exprimée. Oh! Là là! Combien Dieu pourrait, vous voyez? Si votre cœur et votre pensée sont à tel point remplis de l'Esprit de Dieu, au point que vos pensées deviennent ses pensées. Et voilà votre clé. Au point que vos pensées deviennent ses pensées. Amen. Vous y êtes. Lorsque votre pensée, et votre direction, et votre guide deviennent un lieu direct, ou plutôt une inspiration directe du Saint-Esprit qui anime votre être mortel. Oh, là là! Quel genre de personne devrions-nous être, si le Saint-Esprit même s'estère à ce point personnifié en vous, ou s'il vous a à ce point rempli de puissance, que vous n'utilisez plus vos propres pensées, que vous n'utilisez plus votre propre intelligence, que vous n'utilisez plus vos propres opinions, mais que le Saint-Esprit vous édifie au point où vos pensées et votre être sont l'Esprit de Dieu s'exprimant à travers vous. Quel genre d'Église serions-nous? Quel genre de personnes serions-nous? Ce matin, si ce Branham Tabernacle, ce matin était si rempli de la présence de Dieu, eh bien, que vous n'utilisiez même plus votre propre intelligence, vous n'utilisiez même plus vos propres pensées, que vous n'auriez même plus de choix qui vous soit propre, mais seriez simplement conduit par l'Esprit. 212. Comme un homme pense. Il faut que cela devienne une pensée avant de devenir une parole. Et une parole exprimée se matérialise. Je crois dans mon cœur que je suis un chrétien parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Même si je n'ai mis pleure pas, même si je n'ai mis bouge pas, même si je n'ai mis fait rien. Dans mon cœur, premièrement, je crois que Christ est mort pour moi, à ma place. Amen. Je l'accepte en tant que chrétien. Je le crois en tant que chrétien. Alors c'est dans mon cœur. Puis je l'exprime en parole, je suis un chrétien. Alléluia. Puis, je commence à marcher en tant que chrétien, à parler en tant que chrétien, à vivre en tant que chrétien, être chrétien. Et par mes fruits, je suis reconnu par le monde comme étant chrétien. Alléluia. Donc, frère Branham nous dit étape par étape comment cela se fait. Tout d'abord, cela doit être dans votre cœur, puis, dans votre bouche, et ensuite cela se manifestera dans vos actions. Jean 12.24 en vérité, je vous dis, si le grain de blé tombe dans la terre et n'y meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et dans Jean 16.7 nous lisons, toutefois je vous dis la vérité, c'est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je n'ai mis par pas, le Consolateur n'y viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Maintenant, vous voyez, tout dépend de lui, de ce qu'il a fait. Maintenant, frère Branham a parlé de la semence originelle étant la parole de Dieu et il a mentionné dans le message, l'enlèvement que cette vieille Esther a paru depuis le message de Luther, et elle est montée à travers celui de Wesley, elle a continué de monter à travers le message pentecôtiste, jusqu'à ce qu'elle se repose finalement dans l'intelligence, qui est à la pensée même de Dieu, de retour dans les gens. Maintenant, en examinant ces trois pensées ici, nous voyons que, numéro 1, la semence contient la vie de l'originel. Esther de Pierre 1.3 puisque sa divine puissance nous est donnée toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, 4 par lesquelles nous sont données d'extrêmement grandes et précieuses promesses, afin que par elle vous soyez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Comment devenons-nous participants de la nature divine? C'est par sa parole. C'est ce qu'il a dit. Numéro 2, la même vie qui a été semée dans la semence originelle, qui est la vie même qui était en Jésus-Christ, le fera. C'est Genèse 1.11 la loi de la reproduction chaque semence selon son espèce. Numéro 3, cette vie reviendra en 7 heures, non seulement parmi les gens, mais elle entrera aussi dans les gens. Et c'est juste une chose merveilleuse à penser. C'est Colossiens 3.4 quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui dans la gloire. Il a dit, la semence complète apparaît dans son corps complet. Ce qui est la vie complète, qui était dans la semence doit revenir dans la chair humaine dans une épouse, en 7 heures. Donc, nous parlons de la semence originelle. La parole vie originelle de retour dans la chair humaine. Et c'est pourquoi on nous dit, que notre nouvelle naissance vient par une semence qui est la parole incorruptible de Dieu. En fait, Jésus a dit dans Jean 6.63 mes paroles. Elles sont esprit et elles sont vie. Et ainsi, nous voyons que la parole est porteuse de la vie éternelle. Maintenant, cet après-midi, j'aimerais examiner cette pensée de la parole étant une semence d'une manière un peu différente de ce que vous avez peut-être entendu auparavant. Puisque nous parlons de la parole étant une semence, Je voudrais décomposer cela à notre niveau personnel pendant quelques minutes. Et nous sous-titrerons ce message le jardin de votre pensée. Nous allons nous investir dans cela pendant environ 5 sermons au total. Maintenant, nous savons que la parole est une semence. N'est-ce pas? Alors, si la parole est une semence, il y a une vie qui est dans cette semence. Chaque semence est porteuse de vie. Nous le savons par définition. Mais qu'y a-t-il dans une parole? La réponse est des pensées. Avant qu'il y ait des paroles, il y avait des pensées. Alors la parole est une expression des pensées. Donc, en substance, les pensées dans la parole sont la vie de la parole. N'est-ce pas? Autrement dit, si je vous disais, salgue, vous pourriez n'aimi pas comprendre ce que je dis, parce que c'est le mot norvégien pour vente. Mais si je vous parle avec des mots que vous comprenez, alors quand je dis le mot vente, cela vous évoque beaucoup de choses. Immédiatement, votre esprit passe à la vitesse supérieure et vous commencez à penser à d'autres choses associées à une vente. Si vous êtes dans l'immobilier, vous pensez à une maison qui est sur le marché. Si vous n'êtes qu'une personne ordinaire, vous pensez immédiatement, vente de quoi? Ainsi, vous pouvez voir qu'un mot n'est pas simplement un son guttural, mais il a vraiment une certaine signification. Maintenant, que se passerait-il si je prononçais le mot voile? D'accord. Dans votre pensée, vous visualisez déjà une voile et un voilier. D'accord. On dit qu'une image vaut 1000 mots. 1 Corinthiens 14:6-11 maintenant. Frères, si je viens parmi vous en parlant en langue, à quoi vous serais-je utile? Sauf si je vous parle par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. C'est de même les choses sans vie qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe. Sauf si elles rendent des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est à jouer sur la flûte, ou sur la harpe? Autrement dit, combien ont déjà vu le film Les dieux sont tombés sur la tête? D'accord. L'homme parlait comme s'il cliquait de la langue et il communiquait réellement avec les membres de sa tribu par claquement de la langue. Maintenant, vous et moi ici, et nous pensons qu'il est fou et qu'il n'est pas un dieu, c'est juste un homme, mais il est fou. Mais non, il communique réellement entre eux par le clic de la langue. Oui, car si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour la bataille? Ne faites-vous de même, si vous n'aimez prononcer pas des mots avec la langue, qui puisse être facilement compris. Comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. D'ici il y a toutes sortes de voix dans le monde, et aucun d'elles n'est sans signification. On sait pourquoi si je n'aimais sais pas ce que veut dire la voix, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc, si vous veniez dans cette pièce et que nous vous demandions de parler ici et que vous montiez à la chair et que vous commenciez à cliquer de la langue ou même à parler en langue, que ce soit angélique ou d'autres langues humaines, que ce soit l'espagnol ou le français ou autre, les gens n'aimés vous comprendraient pas. Il faut donc un interprète. C'est vrai? Eh bien, il faut quelqu'un pour clarifier ce qui est dit, puis de le présenter aux gens. Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que chaque son a une signification dans une langue. Le simple fait de prononcer des mots qui n'ont aucun sens n'aimé fait aucun bien pour personne. Mais lorsque nous parlons avec des mots qui peuvent être compris, alors ces mots peuvent et vont porter du fruit. Maintenant, Frère Bell a cité Michener, qui a dit que lorsque les mots ont perdu leur sens, alors naturellement tout est fini. Je veux dire que lorsque vous arrivez au point, comme beaucoup de gens à l'esprit libéral, où ils peuvent prendre des choses qui pour vous signifient une chose, pour eux cela signifie une autre chose. Comme mon père m'a dit, il a dit, quand nous disons le mot joint, cela signifie à votre doigt. Mais dans les années 50 et 60, Sester est devenu un appartement. D'accord. Et puis, dans les années 70, Sester est devenu la marijuana. Donc, le mot joint signifie trois choses, pour trois personnes différentes. Même si Sester est le même mot. Eh bien, Sester, pourquoi la parole de Dieu peut signifier quelque chose pour vous, et elle signifie quelque chose de différent pour quelqu'un d'autre. Si vous avez la façon de penser de Dieu, si vous avez la pensée de Christ, vous comprendrez ce qu'Esther le message. Mais si vous n'avez pas la pensée de Christ, alors vous, Néhémie, pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Dans Jérémie 6.19 nous lisons, entends, ô terre, voici, je m'en vais faire venir un mal acquis sur ce peuple, à savoir le fruit de leurs pensées, parce qu'ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ni à ma loi, mais l'ont rejeté. Ici, Dieu nous dit que nos pensées produiront réellement du fruit. Et Dieu dit aussi qu'il apportera le jugement. Leurs pensées, le fruit de leurs pensées, deviendra néant. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons plus de folie parmi nous que nous n'en avons jamais eu. Et nous savons que l'homme est comparable à un arbre, comme nous le voyons dans le psaume 1.1-3. Béni est l'homme qui Néhémie marche pas selon le conseil des impies, et Néhémie se tient pas dans le chemin des pécheurs, et Néhémie s'assied pas sur le siège des moqueurs. De mais sa satisfaction Esther dans la loi du Seigneur, et, dans sa loi, il médite jour et nuit. 3 Et il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau, qui rend son fruit en sa saison, son feuillage Néhémie se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Alors, quel est Esther le fruit de cette saison? Frère Branham a dit que le fruit Esther l'enseignement de la saison. Maintenant, Noé n'avait pas les fruits que vous avez. D'accord. Wesley n'avait pas les fruits que vous avez. La justification sous Luther, vous l'avez, mais vous avez plus que ce qu'il avait. Ici, nous voyons qu'un juste Esther comparable à un arbre qui Esther planté près des rivières d'eau. Et on nous dit que son fruit produira en sa saison et que son feuillage Néhémie se flétrira jamais. Maintenant, que veut dire Dieu par cette métaphore? Nous savons que Dieu compare sa parole à l'eau et la vie éternelle au fleuve, rivière, de vie qui coule du trône de Dieu, comme nous le voyons dans Apocalypse 22.1 et l'ange me montra une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Ensuite, nous voyons que cet homme est planté. Cela signifie qu'il Néhémie peut pas bouger, mais il est fixé dans cet endroit, ce qui signifie qu'il est enraciné. Et ses racines s'étendent vers les eaux de la vie, et il vit des eaux de la vie éternelle. Et bien sûr, nous savons ce que sont ces eaux de vie. C'est la parole de Dieu. Car Paul nous dit dans Éphésiens 5.26 que nous sommes lavés par le lavage d'eau par la parole. Et puisque cet arbre, ou ce juste, a un bon approvisionnement en eau, son feuillage Néhémie flétrira jamais. Comme Pierre l'a dit, nous sommes nés de nouveau d'une semence qui Néhémie périra pas, la parole de Dieu qui vit et demeure pour toujours. Rappelez-vous que je vous ai dit ce matin que j'ai lu une citation où frère Branham a dit que vous devez constamment arroser la parole. Et il a dit que vous l'arrosez avec la parole. Autrement dit, lorsque la parole est remplie les paroles sur parole, elle s'accomplira et elle vous donnera enfin une révélation dynamique. Vous êtes peut-être venu avec une foi mentale. mais maintenant vous avez quelque chose qui a été vivifié. Et ainsi, nous voyons que cela parle de la vie éternelle, car la vie dans cet arbre ne m'y flétrira jamais. Mais je veux que vous voyez aussi que la plus grande chose à propos de cet arbre est qu'il est constant, et qu'il produira toujours ses fruits à la bonne saison. Et donc, nous voyons que le fruit est à une saison. Comme je vous l'ai dit, on ne plante pas du blé d'hiver au printemps, on le plante à l'automne. Il doit germer pendant l'hiver et pousser au printemps et être récolté en juin. Vous ne pouvez pas planter certaines choses au moment où vous voulez. Vous ne pouvez pas planter une citrouille en octobre. Il mourra en hiver. Ainsi, le fruit est à une saison. Je veux que vous compreniez cela dans votre réflexion, parce que nous vivons dans une saison. C'est un fruit de saison. Maintenant, nous entendons Jésus parler de connaître un homme par ses fruits. Dans le livre de Matthieu 7.15-20, gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups voraces. 16. Vous les reconnaîtrez leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? 17. Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. 18. Un bon arbre ni peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. 19. Tout arbre qui ni produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20. Esther, pourquoi vous les connaîtrez leurs fruits? Et frère Branham nous en a parlé dans les uns du temps de la fin. Le fruit ici, c'est à l'enseignement de la saison. Donc, si c'est à l'enseignement de la saison, alors un bon arbre ni peut pas produire l'enseignement d'une autre saison. Et un arbre corrompu ni peut pas non plus produire l'enseignement de la saison. Donc, cela vous dit où ils en sont. Il y a beaucoup d'imposteurs, même parmi nous, dans ce message. Maintenant, qu'est-ce que frère Branham veut dire par là, vous les connaîtrez à leurs fruits. Un examen plus attentif de cette écriture nous permet de voir que vous serez capable de dire qu'est-ce qu'est un homme par son fruit. Alors, c'est le fruit qu'il identifie et déclare l'homme. Maintenant, rappelez-vous, il commence par nous mettre en garde contre les faux prophètes. Et il les appelle des loups déguisés en moutons, mais parle ensuite de fruits. Il utilise des métaphores pour faire passer un message. Mais quels sont ces fruits dont il parle? Certains voudraient vous faire croire que ces fruits sont les fruits de l'esprit ou les fruits de la chair. Mais frère Branham nous a dit dans son sermon les uns du temps de la fin, le fruit est à l'enseignement de la saison. Par conséquent, nous devons nous demander, qu'est-ce que l'enseignement, sinon les pensées mêmes de la personne révélées par des mots, des paroles. Par conséquent, si nous décomposons cette pensée de ce qu'est le fruit d'un homme, nous constatons que ce sont ses pensées, ce qu'il pense. Et nous constatons qu'un juste aura les bonnes pensées pour la bonne saison. Ou mieux dit encore, un juste aura des pensées qui correspondent parfaitement à la saison dans laquelle il vit. Ceux qui ont été élus à l'époque de Moïse Néhémie se sont pas tournés vers le message de Noé pour trouver le pain de vie à leur époque. Ils ont reçu le message de Moïse à l'époque de Moïse. À l'époque de Jésus, ceux qui se sont tournés vers Moïse l'ont manqué quand il est revenu. Et ainsi, nous voyons que le juste est comme un arbre qui est planté et enraciné dans les eaux où la parole de la vie éternelle, et leurs pensées seront de saison pour leurs jours et donc ils ne m'y flétriront jamais. Nous avons commencé ce matin à parler de l'arrosage des pensées semences qui sont dans votre pensée, et ce soir, j'aimerais continuer là où nous nous sommes arrêtés. Maintenant, pour mieux comprendre comment notre pensée est comme un jardin, nous allons chercher plus loin dans le livre de Proverbes 23.7. Ici, nous lisons, car l'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Par conséquent, un homme esther ce qu'il pense dans son cœur. S'esther ce que je dis aux gens. Néhémie dit jamais, 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 eh bien, je dois être une vierge folle, ou je pense que je suis une vierge folle. Parce que vous savez quoi? Vous le dites. Vous le saurez. Commencez à prétendre que vous êtes l'épouse de Christ. D'accord. Par conséquent, un homme esther ce qu'il pense dans son cœur. Maintenant, nous avons déjà montré que nos pensées sont comparables à la vie dans une semence. Et écoutez, les gens peuvent dire des choses stupides comme ça, mais s'esther le diable en vous. Comme Martin Luther a dit, il viendra dans vos branches. Mais n'aimez le laissez pas faire un nid. Autrement dit, n'aimez le laissez pas rester là. Il suffit de le chasser. Quand vous entendez des pensées comme ça, elles sont contraires à la parole. Il suffit de les chasser. D'accord. Par conséquent, un homme esther ce qu'il pense dans son cœur. Maintenant, nous avons déjà montré que nos pensées sont comparables à la vie dans une semence. Par conséquent, nous concluons qu'un homme esther littéralement ce qu'il pense, et donc son caractère esther à la somme de toutes ses pensées. Comme chaque plante jaillit d'une semence qui était cachée dans la terre, et qui n'aurait pas pu commencer sans semence, graine. Il en va de même pour chaque action que nous faisons, et ce sont des mots très importants. C'est esther pourquoi ils sont en gras. Chaque action que nous posons jaillit d'une graine, semence, qui a été plantée dans le siège de nos pensées telle qu'une pensée. C'est esther pourquoi ces meurtriers de Masnaemi sont rien d'autre qu'une bande d'enfants qui passaient leur temps sur des jeux vidéo à tirer sur d'autres personnes, puis leurs actions s'exercent en tirant sur d'autres personnes. Vous voyez, ils doivent d'abord l'exécuter dans leurs pensées, puis ils l'exercent. Par conséquent, nos actions manifestent les pensées qui sont dans notre cœur. C'est esther pourquoi frère Branham a dit, la marque de la bête n'esther pas une marque sur la main ou sur le front, mais plutôt dans le front, ou dans ses pensées, et dans ses mains donc dans ses actions. Ce qu'il pense et ce qu'il fait, identifie donc qu'il esther une bête. Voilà votre marque. La marque de la bête. Vous voyez, ce sont les caractéristiques de la bête. La marque de la bête 13 mai 54p, 74 maintenant. Vous voyez ce qu'esther la marque de la bête? C'est esther la marque de l'apostasie. Autrement dit, vous n'y croyez pas la parole. C'est esther une personne qui pense simplement, eh bien, je suis membre d'église, et je suis tout aussi bon qu'un autre. Néhémie suis-je pas membre de cette église? Et vous rendez-vous compte d'où? L'organisation de votre église, sur laquelle vous vous reposez, d'où elle vient? Vous rendez-vous compte? La Bible a dit, celui qui adore la bête, reçoit sa marque, ou la lettre de son nom. Regardez bien, là, sur le front ou la main, s'esther une connaissance ou une action. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage. Il n'esther pas nécessaire que ce soit ça. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit du spirituel. Observez-le bien et voyez ce qu'il connaît des Écritures. Écoutez-le et voyez où il va. Si un homme n'a pas cette doctrine, il n'y a pas de lumière en lui, dit la Bible. Voyez, voyez, regardez bien où il va. Regardez bien ce qu'il fait. Il dit, eh bien, je suis membre. Je suis protestant. Oui, monsieur. Je suis membre de telle église. Oui, monsieur. Et le dimanche, s'esther tout juste si vous la respectez assez pour y entrer quand il pleut. Il rétrograde, au lieu d'aller à la réunion de prière, Vous fermez l'église pour vous asseoir et regarder la télévision. Il s'en va, là, et il boit, et il fait n'importe quoi. Il se conduit comme le reste du monde. Pourtant il est un membre de l'église. Rappelez-vous, c'est Esther la marque du péché. Maintenant, écoutez, dans ce message, je connais une église dont frère Egipio m'a parlé, où son fils Esther allait, dans une certaine ville à un certain endroit. Et il y avait une église du message qui prétendait suivre frère Vell et on s'attendrait à ce qu'il vive la vie. Mais vous savez ce qu'il a dit? Toutes les personnes qui assistaient au service de cette église, qui assistaient à la fête qu'elle organisait se saoulaient. Chaque personne. Un autre frère m'a raconté que sa femme était impliquée dans l'échange de femmes avec un diacre de cette église, et elle l'a quitté pour un autre homme. Maintenant, dites-moi si c'est Esther une marque de Dieu ou la marque de Satan. Dites-moi s'il prêche la vérité ou s'il prêche leur version de la vérité. Vous voyez, comme le serpent Esther venu à Ève et lui a donné sa version, qui Esther, tu n'es mi mourra certainement pas. Dans Luc 6, 45, Jésus nous dit que les paroles que nous professons proviennent toutes de l'abondance du cœur. Et, le moqueur, tel que nous le savons, signifie la compréhension qui Esther la compilation de toutes nos pensées. Par conséquent, nos actions et nos paroles Néhémie sont que le fruit qui vient manifester la vie de la semence à l'intérieur. Dans Genèse 1.11, nous avons vu la loi de la reproduction, selon laquelle chaque semence doit se reproduire selon sa propre espèce ou nature. Et vous allez reproduire Dieu ou le diable. Par conséquent, la vie qui Esther dans la semence doit se manifester. Et par conséquent, tout ce qui Esther dans la semence se manifestera dans une manifestation extérieure en temps voulu. Nos pensées sont alors les germes, semences, de nos actions. Et donc, si un homme Esther juste, c'est Esther parce qu'il a des pensées justes. Proverbe 12.5 Les pensées des hommes droits et justes sont intègres, mais les conseils des méchants Néhémie sont que tromperies. Par conséquent, qu'est-ce qui distingue un juste d'un méchant? Ce sont d'abord ses pensées, ensuite viennent ses actions. Psaume 10.4 Le méchant, à travers l'orgueil de sa contenance, Néhémie cherchera pas Dieu, Dieu n'est-ce pas du tout dans ses pensées. Frère Branham nous a enseigné le simple principe qu'avant de pouvoir véritablement commettre l'acte de péché dans votre chair, vous devez d'abord le penser dans votre pensée. Par conséquent, la plus grande bataille jamais livrée se déroule dans la pensée. Inclinons simplement la tête en prière. Gracieux Père, nous savons que nous avons eu un autre court sermon. Cependant, Seigneur, c'est Esther un très bon sermon, et en fait, parce qu'il dure moins de 25 minutes, c'est Esther un sermon parfait. Donc, de toute façon, nous te remercions Seigneur et nous demandons que ces quelques mots nous aident à comprendre la nature que nous avons. Esther ce que cela te reflète? Ou Esther ce que cela reflète le diable? Aide-nous à penser à cela. Au nom de Jésus, nous prions. C'est Grace Fellowship Tabernacle, octobre 2023. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.